Fréquence.
Bonjour à toutes et à tous, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle édition de Fréquence AFSI, une émission spéciale enregistrée depuis le siège d'AXA. Et on remercie Valérie Perrucho-Garcia de son accueil dans ces magnifiques salons. L'AFSI, en partenariat avec le groupe Media Meeting, vous propose aujourd'hui 30 minutes, un peu plus, sur le thème des études d'opinion interne. L'entreprise à l'écoute est-elle prête à entendre? Au moment où les enquêtes, justement, soulignent la crise de confiance qui touche de nombreuses institutions et cette crise qui interroge également les entreprises de l'intérieur, comment prendre le pouls du climat interne, comment mesurer le niveau d'adhésion des collaborateurs, quelle fiabilité accorder à ces études. Enfin, écoutez, mais pour quoi faire? Ce sont toutes ces questions que nous allons nous poser avec les intervenants que je vous présente tout de suite, tous des professionnels expérimentés de la communication, des études d'opinion et des ressources humaines. Valérie Perrucho-Garcia, qui nous accueille donc, directrice de la communication interne du groupe AXA, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous et bienvenue chez AXA.
Delphine Martelly, directrice du département corporate de l'Institut CSA, bonjour.
Bonjour.
Claire Duhamel, Business Development Manager chez Shell Aviation, bonjour.
Bonjour.
Sandrine Giotto, de la direction des études et arguments chez EDF, bonjour.
Bonjour à tous et toutes.
Et Sylvain Morel, directeur des ressources humaines du Printemps, bonjour.
Bonjour.
Tout de suite, l'édito.
Fréquence AFSI, édito.
L'entreprise à l'écoute, qu'est-elle prête à entendre? Le thème de cette émission consacrée aux études d'opinion interne a inspiré cette contribution de Jean-Marie Charpentier, responsable de l'observation sociale chez ERDF et secrétaire général de l'AFSI. Contribution en forme d'éditorial. Écoutons donc Jean-Marie Charpentier.
L'écoute sociale, ça reste la base de la communication. Alors, ça paraît aller de soi, mais ça va encore mieux en le disant et en le répétant. Et cela pour une raison bien simple. Il n'y a de communication qu'avec l'autre. L'autre qui est toujours différent, l'autre qui pense différemment, l'autre qui agit différemment. Eh bien aujourd'hui, si l'on veut sortir des chemins rebattus de l'image et de la com, au passage il n'est pas vraiment question d'écoute, pour aller vers la communication au sens de conversation, de dialogue, de débat, il faut en revenir à l'écoute. Cette écoute dans la société comme dans l'entreprise peut prendre différentes formes. Ça peut être un dialogue direct, un échange au quotidien, un chat, ça peut être une enquête, un sondage, ou encore une étude sociologique. Ça peut être une série d'avis échangés sur les réseaux sociaux. Les voies de l'écoute sont diverses et c'est tant mieux. L'essentiel quand on écoute, c'est bien sûr d'essayer d'entendre. Mais ce qui, à mon sens, est le plus important, c'est de comprendre. Comprendre la vie, comprendre l'opinion, comprendre l'argument, comprendre le choix de l'autre. C'est justement cette compréhension qui fait souvent défaut dans nos sociétés, qui reste des sociétés où l'on émet avant d'entendre, où l'on émet en permanence, souvent sans véritablement connaître, sans vraiment comprendre. Émettre, en fait, c'est toujours plus facile qu'écouter. Écouter, entendre, comprendre, ça prend du temps. Du temps que certains jugent superflu, obnubilés qu'ils sont par le court terme, l'immédiat, la vitesse. Et là se pose la question de la relation entre la connaissance et l'action. Au fond, l'écoute, c'est déjà de l'action, mais de l'action où l'on prend le temps de la respiration. Mener une enquête, organiser un sondage, conduire une démarche participative, monter un chat, c'est de l'action au sens plein. On a encore trop tendance à dissocier le temps de l'écoute, de l'échange d'arguments, de celui de l'action. Or, ce devrait être une seule et même chose. Le temps que l'on passe à écouter l'autre, c'est un temps de communication et donc un temps d'action. Je suis frappé, après une longue expérience des études d'opinion en entreprise, de voir combien les salariés apprécient de pouvoir s'exprimer à travers les enquêtes, espérant toujours être entendus et pourquoi pas compris. Ils acceptent sans difficulté de répondre à des enquêtes concernant leur entreprise, y compris après les heures de travail. C'est bien le signe qu'ils prennent cela au sérieux. L'écoute est un moment fort pour eux. Ça doit être, ça devrait être un moment fort aussi pour l'entreprise, pour entendre et surtout comprendre. Toujours et j'en reviens à cette notion, toujours cette fameuse compréhension dont Edgar Morin dit qu'elle est à la fois le moyen et la fin de toute communication humaine.
Écouter pour comprendre, dit Jean-Marie Charpentier, et comprendre c'est également s'ouvrir le champ de l'action possible. Comment faire évoluer, bouger, s'adapter, gérer les enjeux et contraintes qui pèsent sur le développement d'une entreprise sans intégrer dans sa réflexion la capacité de réponse et de mobilisation des personnes qui font l'entreprise au quotidien, une composante humaine qui constitue à la fois sa principale richesse et peut-être également sa principale inconnue. D'où l'importance de ces études d'opinion interne qui vont permettre à la fois de mesurer le climat social au sein de l'entreprise, d'évaluer les risques et les zones de tension face à un changement envisagé ou annoncé, ou encore de jauger la capacité d'implication et de mobilisation des collaborateurs au service de l'entreprise et de ses objectifs.
Fréquence FCI, table ronde.
Valérie Perruchot-Garcia, vous êtes donc, je le disais, directrice de la communication interne du groupe AXA. Il existe justement chez AXA depuis 1993, bientôt 20 ans, une enquête d'opinion interne, l'AXA-SCOP, destinée à mesurer au fil des ans l'engagement des collaborateurs du groupe. Alors, comment justement vous mesurez l'implication des 120 000 collaborateurs du groupe présents dans 54 pays en 21 langues? Comment vous mesurez cette implication et comment ce niveau d'implication vous aide-t-il également à comprendre votre entreprise?
Alors effectivement, c'est une très vaste enquête qui est tout à fait institutionnelle aujourd'hui puisqu'on l'a lancée en 93. Comme vous disiez, on était à cette époque assez pionniers. On l'a renouvelée chaque année depuis 93 et on a toujours un taux de participation assez massif puisque sur les 120 000 invités, on était par exemple cette année à 91 000, un peu plus de 91 000 participants répondants. À travers cette enquête, on cherche à mesurer ce qu'on appelle l'engagement chez nous, des collaborateurs. Et cet engagement, on s'appuie sur plusieurs axes. On va aller regarder, par exemple, la dimension du leadership, la dimension des valeurs, une dimension un peu plus culturelle, la dimension du management de proximité, la rémunération, bien sûr. On a introduit cette année un axe sur la satisfaction des clients. Comment le collaborateur se sent par rapport à cet axe. Et c'est d'ailleurs un axe qui n'a pas de très bon score cette année, sur lequel on va sans doute travailler. Voilà, donc on fait cette espèce de mesure globale sur tous ces différents axes. Et ensuite, on définit un indice qu'on appelle l'indice d'engagement du collaborateur AXA.
Que vous utilisez comment? Quelle suite concrète vous donnez à cette
étude? Alors, on a bien sûr cet indice global. Et la beauté de cette enquête, si je puis dire, c'est qu'en fait, à partir du moment où on a un groupe constitué de 20 personnes, c'est-à-dire par exemple à l'échelle d'une équipe, on a son propre scope, sa propre analyse scope qui est partagée avec l'équipe, la direction. Impliquée. Donc, pour prendre l'exemple de la communication, où on est un peu plus de 30 au niveau du groupe, on a bien sûr récupéré nos propres résultats. On peut tout à fait se benchmarker avec les résultats de l'ensemble du groupe et voir quels sont les axes d'amélioration et ce sur quoi il faut vraiment travailler dans l'année qui vient. En fait, le calendrier de scope est très bien établi et chaque année se reproduit de la même façon. L'enquête a lieu tous les ans en novembre, sur 3 semaines. On a les résultats début février. On monte des groupes de travail par rapport à ces résultats courant mars. On fait un point d'étape en juin et on clôture les groupes de travail en octobre. Et rebelote, on repart sur un deuxième exercice.
Et ça débouche sur des plans d'action, des mesures concrètes?
Tout à fait. Et c'est même l'engagement que tous les managers doivent prendre, évidemment, par rapport à l'analyse de leurs propres résultats. Ils déterminent quels sont les axes de progrès, les axes sur lesquels il faut travailler et mettent en place des plans d'action de manière la plus collaborative possible avec leurs équipes pour pouvoir, bien sûr, progresser sur ces items sur lesquels ils auraient été légèrement en baisse ou en baisse manifeste d'une année sur l'autre.
Alors, je voudrais que vous nous disiez aussi un mot d'un outil parallèle à cette étude. Alors, outil plus récent, lancé il y a quelques semaines.
En février,
Un panel, c'est ça? Une série de panels?
En fait, on a décidé de tester, pour l'instant on est en mode de test, on est en pilote, un panel interne basé sur le volontariat qui nous permet de sonder un certain nombre de collaborateurs. Alors, aujourd'hui, notre panel porte sur la France, l'Espagne et Singapour pour avoir à peu près toutes les dimensions représentées du groupe, pays émergents, pays matures, etc. Et là, on ne va pas aller mesurer ni la satisfaction ni l'engagement, mais plutôt on va tester les collaborateurs sur des sujets peut-être plus de communication pure. Par exemple, on veut lancer une page Facebook pour le groupe, comment on va nommer cette page? On va proposer des pistes et le volontaire qui a choisi de répondre et de rentrer dans ce panel va pouvoir répondre et donner sa propre opinion. On peut aussi, par exemple, mesurer l'adhésion à une homepage d'un site intranet ou d'un site internet. Enfin, on est beaucoup plus,
on va dire,
sur de l'outil opérationnel. Voilà, on va mesurer l'adhésion et puis on va susciter susciter des réactions et on va demander vraiment ce qu'ils en pensent. Quoi.
Et ce sont deux outils menés en parallèle.
En parallèle. Le premier, le scope, est piloté plutôt par les RH du groupe. Celui-ci est totalement piloté par la communication du groupe.
Voilà. Delphine Martelly, donc, vous êtes directrice du département corporate de l'Institut CSA et vous conduisez donc ces études d'opinion interne au sein des entreprises. Qu'est-ce qui a évolué dans la demande des entreprises qui veulent être à l'écoute de leurs collaborateurs?
Le premier constat, quand même, je crois qu'il faut le rappeler, c'est que la demande a beaucoup augmenté. Elle est devenue de plus en plus forte. Les entreprises sont de plus en plus nombreuses aujourd'hui à s'adresser à nous pour installer, pour développer, pour rénover parfois ces outils d'écoute. Et ce phénomène a eu lieu sur les quelques dernières années, dans un contexte évidemment de mutation à la fois économique très forte, mais aussi très souvent de réorganisation interne des entreprises, des appareils de production, des systèmes de management aussi, évidemment. Donc une demande qui s'est vraiment accrue ces dernières années, et j'allais dire tant mieux pour les instituts d'études que je représente ce matin.
Et des attentes qui évoluent aussi.
J'allais dire que finalement, les méthodes et les méthodologies ont évolué, évidemment, mais c'est pas ça l'essentiel. Ce qui a le plus frappant, c'est l'évolution des demandes qu'on adresse à ce type d'outils quand on est en direction d'entreprise, que ce soit en direction de communication ou en DRH, les deux directions intervenant en général sur ce type d'outils. On est passé d'une demande d'outils, j'allais dire, de veille, assez globaux, assez généraux, de prise de température régulière pour être sûr que voilà tout se passait à peu près bien dans l'entreprise, sans enjeux opérationnels très directs, à des outils vraiment à la fois plus stratégiques, puisque aujourd'hui on est passé d'un outil de veille à un outil de, j'allais dire, davantage de performance sociale, de mesure de la performance sociale. Donc un objectif plus stratégique et en même temps un objectif plus opérationnel. Valérie parlait de plan d'action. C'est là la demande sans doute la plus nouvelle. C'est qu'aujourd'hui on nous demande, au-delà de la simple mesure, d'être en capacité de donner des résultats assez directement opérationnels, de dessiner une cartographie du corps social, à la fois de ses forces, de ses faiblesses. Et je le disais quand même, derrière performance sociale, quand on dit outil de performance sociale aujourd'hui, on dit deux choses. On dit d'une part essayer de mesurer le risque social, quelles sont les zones de risque au sein de mes collaborateurs aujourd'hui, mais aussi quelles sont les zones d'opportunité. Et là on revient sur le thème de l'engagement, et d'ailleurs en termes sémantiques c'est intéressant, ces outils s'appelaient baromètres de climat jusqu'à il y a quelques temps, on les appelle de plus en plus souvent des baromètres d'engagement, donc dans les mots aussi on ressent l'évolution. Et donc c'est à la fois mesurer le risque, mais aussi mesurer les opportunités d'engagement, le potentiel de mobilisation des collaborateurs dans un contexte qui est de plus en plus complexe et de plus en plus difficile en termes de performance économique.
Mais c'est un outil, pardon, de pilotage stratégique, c'est un instrument de déminage du climat social.
On est souvent à la frontière des deux. Alors, tout, enfin, dépend évidemment du contexte de l'entreprise. Il y a des entreprises qui sont plus ou moins en difficulté, j'allais dire, ou plus ou moins en réorganisation massive, qui vont donc être plus attentives à la question du risque. Et puis, on a aussi des entreprises qui sont davantage dans, j'allais dire, dans des climats un peu plus sereins et qui vont travailler essentiellement sur le potentiel de mobilisation et d'engagement. Mais de toute manière, cette question de l'engagement, elle va traverser aujourd'hui toutes les entreprises et tous les secteurs. Il n'y a plus une entreprise aujourd'hui qui peut se dire j'avance sans m'assurer que les troupes, d'une certaine manière, vont suivre et vont se mobiliser derrière moi.
Alors justement, Sandrine Giotto, vous êtes au sein d'EDF, à l'interface entre les attentes de vos clients en interne, donc les métiers, les directions, et les prestataires qui, comme CSA par exemple, vont réaliser ces études. Quelles sont les questions à se poser avant de se lancer dans ce genre de consultation? On part pas le nez, la fleur au fusil, le nez en l'air.
Non, effectivement, c'est la bonne approche, c'est-à-dire que au-delà de la volonté de réaliser une enquête, une étude, quelle que soit la méthodologie qu'on envisage, les questions initiales qu'on doit se poser, c'est quels sont les objectifs qu'on assigne à l'enquête, qu'est-ce qu'on veut savoir, qu'est-ce qu'on cherche à identifier, quel est le message qu'on souhaite envoyer ou non, est-ce que cette enquête doit répondre aussi à une action de communication visible du point de vue des salariés, ce qui déjà, c'est une façon de se poser la question qui enferme une partie de la réponse, puisque si on est dans une action de ce type, on va s'orienter davantage vers des enquêtes en ligne, exhaustives, auprès de l'ensemble des salariés, qui justement montrent la prise en compte de l'état d'esprit et des attentes et des priorités et des besoins des salariés par l'entreprise. Si on est davantage dans un pilotage plus fin des dispositifs, des politiques RH, dans une évaluation qui peut être ponctuelle ou au long cours sur les questions de la formation, de l'entretien individuel, de la rémunération, de la motivation, de la situation de travail au plus près du vécu du salarié, on va là aussi, en fonction de ces objectifs qui sont assignés, préconiser nous, en tant que direction des études, des dispositifs méthodologiques différents. Et puis, on va aussi essayer de centraliser et de capitaliser une expertise étude qui va permettre d'éviter les doublons qui arrivent parfois parce qu'on a différentes entités dans une entreprise qui se posent souvent des questions identiques. Et on peut, comme ça, remettre en perspective l'existence qui a été déjà fait par le passé, ce qu'on peut réactualiser, là où on peut créer des synergies et là où on peut donner un plus, en fait, dans l'analyse et dans la compréhension du corps social.
Alors, vous disiez, c'est ce qu'on veut savoir. Est-ce que c'est ce qu'on veut savoir ou est-ce que c'est ce qu'on veut entendre?
Non, c'est pas ce qu'on veut entendre. Et nous, on est là justement pour aider, en fait, à préciser l'attente et les objectifs de l'enquête. On a, évidemment, quand on est en responsabilité, une certaine idée de ce qu'on a mis en œuvre. Et l'enquête, elle est là pour valider ces préjugés, cette idée qu'on a, cette analyse. Et l'enquête va valider ou invalider, peut-être confirmer en partie ou infirmer. Et nous, justement, on conçoit l'enquête de telle sorte qu'elle puisse être un véritable thermomètre et non pas qu'elle vienne enfoncer des portes ouvertes. Y compris, l'enquête peut servir à aller à l'encontre des idées reçues.
Justement, Sylvain Morel, depuis 10 ans, donc vous menez une étude d'opinion interne tous les 2 ans. Alors, est-ce que c'est vraiment un thermomètre du climat social? Est-ce que ça vous a livré quelques surprises depuis 10 ans, par exemple?
Ah oui, oui, en 10 ans, on a quand même eu, je dirais, plusieurs tonalités, plusieurs températures de ce baromètre social. Ne serait-ce que la période, par exemple, en 2001, c'est l'année où on lance ce baromètre. On est en plein dans la bulle Internet. Il y a une très forte croissance comparativement à 2007-2008, où on était plutôt dans une période où, en termes économiques, c'était un petit peu difficile. Et tout ça contribue à un succès ou à une tonalité spécifique au capteur ou à l'étude sociale que vous lancez. Moi, je dirais que c'est un outil un peu, je rejoins les témoignages précédents, en 10 ans, je l'ai vu évoluer effectivement, est un outil porté par une fonction ressources humaines qui vient valider la perception que peuvent avoir les collaborateurs sur quelques thèmes très classiques, la rémunération, le rapport à la hiérarchie, les valeurs de l'entreprise. Et maintenant, on est plus en plus sur des demandes qui viennent du top management pour vérifier s'il y a une bonne adhésion, une bonne compréhension de là où veut aller l'entreprise et des priorités qu'elle se donne, notamment dans l'allocation des moyens. Donc cette évolution est très nette et c'est pour ça que c'est un outil extrêmement sensible et très 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 important. Il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'il ne faut pas le faire tout seul. Il faut s'accompagner, il faut trouver un bon partenaire qui a la maîtrise de l'outil. Il ne faut pas vouloir le faire une fois pour prendre la température et puis on remet le thermomètre, j'allais dire, au placard. Non, non, quand on a commencé, il faut le faire de façon récurrente, avec une fréquence bien établie, parce que dans la continuité, ça nous permet de voir justement les variations qu'il peut y avoir. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est peut-être un capteur, mais ce n'est pas le seul capteur. Il faut se rappeler quand même que dans l'entreprise, il y a une représentation du personnel qui est là aussi pour dialoguer, pour faire remonter des informations. Il y a le management. Donc, il faut mettre tout ceci sur une même table avant de prendre la meilleure des décisions et espérer qu'elle soit la bonne.
Alors, on va y revenir, mais effectivement, sur l'idée de récurrence, depuis 10 ans au printemps, depuis près de 20 ans chez AXA, mais toujours la nécessité, c'est-à-dire de relancer ou de soutenir l'attention sur cette étude, c'est-à-dire d'une certaine manière revendre l'étude en interne à chaque fois, Valérie Perucho-Garcia.
Oui, et ce qui est intéressant, pour rebondir un peu sur ce que vous disiez à l'instant, il y a quand même des corrélations qui se font de manière assez naturelle. Là, nous, on sort de cette crise financière. Enfin, je ne sais pas si on en sort, mais en tout cas, on en voit peut-être un peu la fin. Et cette crise financière a remis en cause beaucoup la stratégie du groupe. Évidemment, sur les items de compréhension de où je me trouve dans l'organisation, comment je comprends mon job, mes objectifs. Évidemment, on a vu des fléchissements vers le bas. Ça ne nous a pas beaucoup surpris. Et effectivement, on s'est dit, il faut qu'on mette en place d'autres choses. Et ce scope, effectivement, confirme ça. À côté, on a bien d'autres outils et bien d'autres moyens de réfléchir et de faire en sorte que les managers prennent pleinement leur rôle et puissent réagir à ces tendances.
Claire Duhamel, chez Shell, donc Shell Global Survey, c'est une étude qui concerne les 100 000 collaborateurs de Shell. C'est une étude très attendue.
Oui, alors,
mais en même temps qu'il faut aussi à chaque fois relancer.
Voilà, c'est un petit peu le rendez-vous annuel où effectivement on l'annonce par email à l'ensemble des collaborateurs dans le monde et on fait un certain nombre de battages jusqu'à la clôture de l'étude pour s'assurer du taux de participation maximum. On atteint des taux de 80% de participation, ce qui est quand même relativement intéressant. Et tous les ans, depuis un certain nombre d'années, au départ c'était il y a une vingtaine d'années un traitement manuel, donc une étude faite tous les 2 ans, et puis depuis qu'on a recours au traitement électronique, c'est vrai que c'est un rendez-vous rendez-vous annuel attendu, sur des sujets aussi larges que la culture HSE au sein de l'entreprise, évidemment très important dans les groupes pétroliers, que la compréhension de la stratégie du groupe par les employés. Est-ce qu'ils adhèrent à cette stratégie? Est-ce qu'ils la comprennent? Est-ce qu'elle est bien communiquée? Donc c'est vrai que c'est un outil qui permet de vraiment s'assurer, comme vous disiez un petit peu avant tout à l'heure, que l'ensemble des troupes suit la stratégie et suit le groupe dans le but d'atteindre son objectif.
Mais comment on peut évaluer à travers une telle étude qui s'applique à 100 000, enfin, comme AXA, à 100 000, 100 000 ou 120 000 personnes avec des cultures différentes, des approches différentes?
Voilà, donc en gros, on a une image globale, évidemment, et puis on peut la décliner par région, par pays, par secteur d'activité. Et donc ça, c'est intéressant, ça permet, on a réussi à identifier dans un secteur, par exemple, un feedback qui venait de ce secteur d'activité-là, qui était, il y a une lenteur dans la prise de décision. Donc on a pu adresser ce problème-là en se demandant, mais est-ce que les décisions, par exemple, sont adressées au bon service? Est-ce que le manuel des autorités est bien compris? Pourquoi y a-t-il une lenteur dans les décisions? Et puis prendre un plan d'action dans ce secteur d'activité pour dire, voilà, si vous avez une décision à prendre, il faut l'adresser au bon forum. Et c'est la meilleure façon, effectivement, de vous assurer que ça accélérera le processus. Donc ce sont vraiment des actions concrètes.
Delphine Martelly, c'est important la finesse de l'analyse et du maillage.
Effectivement, c'est une des évolutions très fortes des dernières années. Quand je disais un outil opérationnel, ce doit être un outil opérationnel au plus fin, à la maille la plus fine finalement. La maille va être différente selon les entreprises, mais on va essayer d'aller au plus près, j'allais dire, des préoccupations pour construire aussi des plans d'action ou de communication d'ailleurs, qui soient proches de la réalité des terrains qu'on essaie d'étudier. Ça va de pair quand même avec la forte émergence puis poussée de la thématique de la communication managériale en entreprise, du poids qu'ont pris les managers justement dans le déploiement, j'allais dire, de la stratégie de l'entreprise. Une stratégie n'est entendue, comprise et motivante que si elle est bien et beaucoup relayée par les corps intermédiaires dont on a parlé aussi tout à l'heure. Donc on a aussi besoin non seulement d'aller au plus près du terrain, vous le disiez, les pays, les zones, les sous-régions, etc., mais aussi au niveau des populations que l'on étudie. On est resté longtemps à un niveau global, vous le disiez, on descend aujourd'hui de plus en plus finement sur des sous-populations, notamment celles des managers, pour aller regarder déjà dans un premier temps de leur côté s'ils sont prêt, un, à s'engager personnellement, deux, à relayer, à déployer et à entraîner leurs équipes autour de la stratégie.
Sandrine Giotto.
Pour compléter sur ce que disait Delphine Martelly, c'est vrai que nous, c'est ce qui nous a poussé par exemple à EDF à être à la fois avoir cette maille fine, cette volonté de pouvoir analyser finement, mais c'est aussi cette volonté de pouvoir prendre en compte les préoccupations métiers spécifiques et donc à décentraliser le système, c'est-à-dire que c'est pas une grande enquête qui couvre tous les métiers, mais c'est des enquêtes par métier et qui intègre un questionnement qui est commun à l'ensemble des métiers pour avoir un retour et une vision globale sur des indicateurs RH classiques, mais aussi pour avoir les préoccupations propres en fonction des réorganisations de l'actualité des métiers et de la déclinaison de la stratégie qui est forcément différenciée selon les métiers. Mmh. Et de la même façon, quand on fait des enquêtes sur baromètre, on a la nécessité d'analyser parce que le résultat global, il est souvent trompeur.
Et alors justement, est-ce que le risque finalement de ce genre d'outil, ça n'est pas de susciter une attente à laquelle l'entreprise, la société n'est pas toujours en capacité ou en situation de répondre, Valérie Verrouche-Garcia?
J'ai toujours les questions faciles. Justement, je rebondirai sur ce que disait Jean-Marie dans son édito, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'écouter. Alors, il y a certes ce rendez-vous institutionnel très important où on a, nous, 83%, enfin, on est dans les mêmes taux que vous de participation. Et il faut aussi donner d'autres temps de parole en interne qui passent pas non plus forcément par la ligne hiérarchique. Mmh. Et nous, on le teste depuis quelques années aussi avec ce qu'on appelle un forum. On fait un forum de discussion en ligne. Et là, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur la compréhension ou l'incompréhension de la stratégie, on le reteste la semaine prochaine. On invite en ligne nos 120 000 sur un forum sur la stratégie qui, pour le coup, va être beaucoup plus décentralisé, pour reprendre aussi votre point, que ne l'est l'enquête Scope qui, elle, est un corpus global. On n'a pas de différenciation par pays. Là, on a laissé la main au pays pour dire, voilà, le sujet, c'est la stratégie globale. Prenez-la par rapport à la proximité que vous avez, vos initiatives locales, etc. Et posez les questions pour voir qu'est-ce que vous pouvez remonter du terrain et qu'est-ce que ça nous apprend pour creuser un peu plus finement, pour pouvoir vraiment nourrir ce qu'on doit faire. Est-ce qu'on doit recommuniquer? Comment? Sur quel thème? Et comment on peut vraiment améliorer, optimiser cette perception.
Claire Duhamel, chez Shell, on attend l'enquête, mais on attend également ses résultats.
Oui, alors on attend ces résultats, bien sûr, puisque traditionnellement, il y a toujours des plans d'action. Et alors, ce qui est très intéressant quand on regarde ces résultats, c'est aussi de bien les analyser en fonction du contexte géopolitique, du contexte économique et du contexte dans un pays particulier. Je vais vous citer comme exemple le contexte de l'explosion de la plateforme Deepwater, par exemple. Les résultats que ça peut avoir au niveau de la perception de notre culture HSE en interne a été assez intéressante, notamment dans les pays d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale, parce que sur une année 2007 où on s'était dit finalement nos outils HSE sont bien perçus, on les utilise bien, tout le monde a un engagement HSE quotidien pour les jobs opérationnels, finalement on était assez sûr de nous, et puis vient un incident qui pourrait arriver à tout le monde et où les gens se reposent cette question et se remettent en question en se disant oui finalement on n'est peut-être pas si performant que ça, est-ce qu'il n'y a pas des axes d'amélioration qu'on pourrait apporter, etc. Donc, d'une année sur l'autre, les réponses aux questions vraiment différentes liées à des événements externes très importants.
Alors, Jean-Marie Charpentier, tout à l'heure, nous disait que écouter, c'est déjà agir. Mais est-ce suffisant, Sylvain Morel? Et sur quoi, au printemps, par exemple, débouche cette écoute, justement?
L'importance, on le disait tout à l'heure, de l'action, parce que d'ailleurs c'est une des clés de succès du fait que nous-mêmes nous soyons passés à peu près de 30% à plus de 75% de taux de participation. C'est difficile dans la durée d'avoir des gens qui ne participent pas, donc il nous faut impérativement donner du crédit à l'outil, et le plan d'action qui vient après est extrêmement déterminant. D'autant plus qu'avec les années, il y a des thèmes qui apparaissent qui n'existaient pas auparavant. Par exemple, les dernières années, on a vu l'impact du développement durable, l'impact éthique, l'impact d'une entreprise citoyenne. Là, on commence de plus en plus à parler des risques psychosociaux, enfin, des thématiques qui doivent être perçues par chaque individu qui est présent dans l'entreprise et sur lequel il va vouloir s'exprimer. Donc, les plans d'action ensuite, eh bien, il nous faut, passer beaucoup de temps sur l'analyse, comme on vient de dire, parce qu'il y a des clés de lecture qui sont quelquefois générationnelles. Je vais en donner un, par exemple. Nous, nous sommes aperçus il y a 2 ans que le rapport que pouvaient avoir les collaborateurs à l'information ou à la qualité de l'information était différent selon les tranches d'âge. Alors, par exemple, je pense pas que nous soyons différents de bien d'autres entreprises. Nous avons des canaux classiques d'information, des réunions, des supports de communication, des journaux d'entreprise, des briefs qui sont faits par le management. Tout ceci fonctionne bien et très très bien perçu. Par contre, les nouvelles générations, c'est-à-dire des gens à peu près qui ont moins de 30 ans, c'est pas suffisant. Je dirais c'est pas suffisant et je dirais c'est même pas déterminant pour eux. Ce qui nous a amené à revoir un peu notre mode de communication en interne, plus basé sur des aspects un peu communautaires, plus basé sur des outils où en fait l'accès est libre à n'importe quelle heure. On peut se connecter sur un chat, sur une base de données commune avec des gens qui ont fait la même école ou qui correspondent au même projet que vous et avec lesquels vous avez simplement envie d'échanger sur votre quotidien. Ça crée plus de liens dans l'entreprise et ce faisant, le flux d'informations continue à fonctionner et chaque collaborateur a une satisfaction, a une perception que la communication dans l'entreprise est fluide et existe.
Alors, vous l'avez tous abordé dans vos interventions. Au sein de l'entreprise, il est censé exister des relais d'information, bottom-up, top-down, comme disaient les Américains, les managers, les organisations syndicales, plus généralement les représentants du personnel. Alors, comment on gère ces différents acteurs de l'entreprise sans donner l'impression de court-circuiter les niveaux représentatifs de l'organisation? Sandrine Giotto?
Comment on gère? Déjà, en posant dès le départ que les outils sont complémentaires, qu'il n'y a pas un outil qui prime sur l'autre, que les données qui sont recueillies dans les enquêtes ne sont pas la vérité, que c'est une partie de la réalité sociale de l'entreprise et qu'il y a d'autres canaux qui sont à même de faire remonter des éléments de cette réalité qui sont tout aussi probants et qui faisons qu'analyser en mettant en perspective ces différents éléments et donc en travaillant, là encore en synergie, avec tous les observateurs, tous ceux qui sont en charge dans l'entreprise de l'analyse sociale, pour réfléchir ensemble, et c'est justement le temps dont parlait Jean-Marie, c'est le temps de l'analyse qui est absolument nécessaire, c'est-à-dire pas se précipiter sur une lecture un peu trop rapide des résultats au motif qu'on voudrait donner le sentiment d'agir tout de suite, mais bien faire un 360 degrés pour ensuite aller plus loin dans la compréhension des mécanismes des opinions internes.
Il y a des susceptibilités à ménager, Sophie, Claire Diomel, pardon.
Il faut bien sûr rester toujours en contact avec l'ensemble des populations. Il y a toujours des risques émanant de ce genre d'enquête. Moi, je me souviens d'une expérience un petit peu traumatisante d'un point de vue direction. On faisait un webcast au sein d'un certain nombre de populations européennes et on était assez sûrs de nous sur un élément, par exemple, de formation. On pensait que les employés étaient très satisfaits de leur plan de formation et de l'évolution qu'on leur apportait, notamment au niveau du développement des compétences, etc. Donc, on a décidé à la fin de la présentation des résultats trimestriels, de faire une petite enquête en ligne, dont les résultats étaient partagés avec tout le monde en ligne. Et on s'est rendu compte qu'on était dans le rouge, alors que notre perception était qu'il y avait une grande satisfaction de l'ensemble des personnes qui écoutaient. En réalité, on s'était complètement planté. Donc évidemment, il faut rebondir là-dessus et il faut réussir à recadrer le tir pour être sûr qu'on en utilise en fait comme il faut pour faire le bon plan d'action sur le terrain. Mais c'est vrai que ça avait été un risque. Quand on est un peu trop sûr de soi, quelquefois on risque de se tromper. C'est ce qui s'est passé.
Mais les entreprises sont aujourd'hui non seulement prêtes à écouter, mais à entendre justement les messages.
Oui, je pense qu'on le prouve en montant ce genre d'opération. C'est quand même un investissement. Oui. Quand on va sonder 120 000 personnes chaque année, qu'on récupère 83% de réponses. Enfin bon, pour moi, c'est vraiment la marque employeur aussi. Il y a derrière tout ça. Voilà, on s'intéresse aux gens, on les interroge avec cette enquête annuelle, mais on les interroge aussi avec plein d'autres moyens que j'ai brièvement évoqués. Donc, je pense que ça veut dire en soi quelque chose. Ça veut dire que dans la culture de l'entreprise, il y a cette écoute. Elle est présente. Et il y a ce côté un peu, on va dire, bon élève, de vouloir toujours mieux écouter, toujours mieux faire derrière chaque moment d'écoute, donc être aussi dans cette action très importante, qui fait que cette action génère la participation importante de l'année suivante, etc. C'est un cercle vertueux.
Bettine Bartelli, on évoquait au début la crise de confiance, pour employer un terme un peu général, qui mériterait sûrement d'être affiné envers les institutions, et donc qui interroge aussi les entreprises. Est-ce que les outils d'enquête d'opinion interne sont une réponse, justement, une clé pour renouer la confiance dans les entreprises?
Je pense que c'est de plus en plus la demande qui nous est faite aussi, hein, de pouvoir s'appuyer sur ce type d'outils pour en faire aussi des opérations de communication au sens très positif du terme, hein, montrer aussi l'engagement de la direction vers cette direction précisément. C'est on vous écoute et on a évidemment tout intérêt, on a envie aussi de partager des choses avec vous et de faire remonter vos opinions. Je pense que on a du côté des salariés, c'est aussi intéressant de les regarder. Et nous, souvent, on les interroge sur ce qu'ils pensent de toutes ces enquêtes, parce que parfois, ils en subissent, entre guillemets, beaucoup hein, au cours de l'année. Il y a des entreprises qui ont une culture très, très forte de ces enquêtes, avec des rythmes très fréquents. Et on les interroge sur l'opportunité qu'ils y voient, sur aussi leur manière d'utiliser. Il y a un usage assez opportuniste, parfois, aussi, des enquêtes du côté des salariés. En tout cas, ils le vivent dans les réponses qu'ils nous font comme une source complémentaire de pouvoir s'exprimer, de pouvoir faire remonter des choses. Alors, ils ont leur relais hiérarchique, évidemment, ils ont leur manager, il y a des organisations syndicales dans beaucoup d'entreprises, mais il y a aussi ces enquêtes qui sont de plus en plus vécues par les salariés, de plus en plus appropriées par les salariés, comme une manière d'avoir un échange, une communication au sens vrai du terme, du bas vers le haut et du haut vers le bas, au travers aussi de ces enquêtes.
Et comment on gère, j'allais dire, une mauvaise enquête, ou en tout cas une mauvaise nouvelle sortie des enquêtes auprès de l'initiateur ou de la direction générale?
Alors, du côté, je vais faire un plaidoyer pro domo, mais j'y crois assez, on est nous-mêmes très impliqués finalement, même si on a une position très extérieure, mais effectivement, on surveille ces résultats, hein, comme s'ils étaient les nôtres d'une certaine manière, surtout quand on est dans le cadre d'opérations de baromètre où on accompagne les entreprises au fil du temps. Évidemment que nous-mêmes, on les surveille de très très près. On a aussi toujours le réflexe de les regarder dans le temps, de les resituer dans le contexte. Sandrine Giotto disait, prenons le temps, mais prenons aussi en compte le contexte des pays, vous l'avez dit tout à l'heure, et de tas d'autres choses. Et prenons aussi le temps de regarder ce qui se passe ailleurs, dans des entreprises similaires, dans des contextes similaires. Tout ça, non pas pour atténuer un mauvais résultat, mais pour bien le remettre en perspective et essayer surtout de trouver les explications de ce résultat. Parce qu'on est là pour ça, on n'est pas là pour donner uniquement un chiffre, on est aussi là pour vous aider collectivement à essayer de trouver, un, les motivations de ce chiffre, de les actions ou les communications qui peuvent aider à améliorer les choses.
Sandrine Jetot, pour conclure.
Trouver les explications, c'est trouver les leviers. Voilà. Et le temps de recherche de l'explication, c'est le temps qui va permettre de définir le levier.
Claire Duhamel.
Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas forcément de mauvais résultat, entre guillemets. Je veux dire, un mauvais résultat, pour moi, ce serait vraiment un très faible taux de participation. Ça, pour moi, ce serait déjà l'indicateur principal d'un mauvais résultat. C'est-à-dire que les gens ne sont même pas intéressés pour répondre à quelque chose. Donc ça, pour moi, c'est un mauvais résultat. Par contre, le résultat qui consiste à dire que les gens ne sont pas satisfaits ou ne comprennent pas la stratégie de l'entreprise ou pensent que la culture HSE n'est pas au niveau où l'on devrait être, je pense que ça, c'est pas un mauvais résultat. C'est au contraire une piste d'amélioration et c'est plutôt une bonne nouvelle d'arriver à détecter via ces enquêtes ce type d'action à prendre.
Les enquêtes pour interroger l'entreprise, les faire évoluer, se remettre en cause, etc. Ces enquêtes qui sont donc, on le voit, des outils certes classiques, mais donc toujours plus importants dans les organisations, des outils qui ont évolué avec les technologies, mais surtout avec les entreprises et les attentes des salariés. Ce qu'on peut retenir en quelques mots également, c'est que pour mesurer l'engagement, il faut un vrai engagement des ressources humaines, de la com interne, de la direction générale. C'est une démarche qui s'installe dans le temps avec un véritable accompagnement avant, pendant et aussi après, pour ne pas générer des frustrations et obtenir l'effet inverse recherché. Bref, encore de belles enquêtes en perspective et une vraie place pour la communication interne dans sa fonction d'écoute interne. Merci à toutes et à tous. Merci à Valérie Perruchot-Garcia une fois encore de son accueil et au groupe AXA de nous avoir accueillis dans ce très beau salon. Merci à l'équipe AFSI et vous retrouverez bien sûr cette émission produite également avec le groupe Media Meeting à une prochaine édition de Fréquence AFSI.
Fréquence AFSI.